La classe cyberdéfense du lycée Louise Michel de Ruffec en Charente vous présente un podcast mémoriel avec différentes interviews en lien avec la Seconde Guerre mondiale.
Bonjour Madame Soult.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'association Les Amis de la Fondation pour la mémoire et de la déportation.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous êtes arrivée à ces fonctions ?
Par une histoire familiale déjà. Et puis aussi un peu par le fait du hasard. Alors une histoire familiale, c'est plus résistance. J'ai un grand-père qui est né en 1900, qui s'est engagé en 17, qui a fait la guerre de 14 dans les Dardanelles, tisserand de métier. En 36, quand les tissages ont fermé, il a, comme on dit, rempilé dans l'armée. Et en 40, il était basé à Cherbourg. En 40, quand les Allemands ont envahi la France, il est parti en Angleterre avec sa flotte. Arrivé en Angleterre, ils ont été faits prisonniers pendant 3 mois parce qu'en fait, il fallait que les Anglais sachent s'il y avait ou pas des infiltrés, des espions. Et à la suite de ça, on leur a proposé le choix, soit de rentrer en France et de servir le régime de Vichy, soit de partir et de servir la France libre. Et mon grand-père a choisi de servir la France libre. Mon autre grand-père paternel, lui, a été tué le 23 mai 40 en service commandé. Il était mobilisé, il était né en 1905. Et puis, surtout, deux de ses beaux-frères, donc qui sont mes grands-oncles, ont été massacrés par les Allemands. Le 31 juillet, au pont d'Exideuil, sur Vienne. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le pont porte son nom, c'est Régis Lagarde. Et l'autre a été massacré à la libération de Limoges le 18 août. Ils avaient respectivement 23 ans et 19 ans. Puis un cousin qui a été, lui, prisonnier de guerre. Il a fait plusieurs tentatives d'évasion. Il a été envoyé au camp punitif de Rabarouchka. Il en est revenu. Et là, il a préparé une évasion. Et cette fois-ci, qu'il a réussi. J'ai eu la chance que dans ma famille, on parlait. Toute jeune, j'ai été baignée dans cette histoire de Seconde Guerre mondiale.
Quelles sont les missions de l'association ?
Les missions de l'association, eh bien d'abord, c'est de porter la mémoire de la déportation et les valeurs de la résistance. Ça, c'est et surtout les porter pas vers n'importe qui, mais les porter vers vous, les jeunes. Donc 80% de nos actions sont dirigées vers les jeunes, par exemple au travers des ateliers de petits chercheurs en histoire qui ont donné les éditions dans la Charente libre, des notices écrites par les élèves, des déportés et des fusillés de Charente par année d'arrestation. Et puis bien sûr de lutter contre tout révisionnisme de l'histoire. Parce que ça, il faut être prudent avec ça. Également de prôner la tolérance et d'être vigilant par rapport à la résurgence de la violence et des doctrines prônant la ségrégation. Et voilà. Surtout que ça ne se reproduise pas. Et pourtant.
Combien de personnes font partie de l'association ?
Une cinquantaine à peu près, en sachant qu'on a 40 personnes physiques et 30 personnes morales. Alors, ce qu'on entend par personnes morales, ce sont des établissements scolaires, des collectivités locales qui nous soutiennent.
Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment est financée l'association ?
Comment est financée l'association ? Ça, c'est une bonne question, surtout en ce moment. Alors, l'association est financée par des subventions. Subvention de la région, subvention du département, subvention de l'ENAC, de collectivités locales comme Grand Angoulême, ce qu'on appelle les Comcom, ponctuellement les mairies également, une partie bien sûr des adhésions et lorsqu'on fait des actions envers les jeunes, par le Pass Culture également.
Est-ce que dans votre famille il y a des déportés ?
Alors, dans ma famille, il n'y a pas de déportés. Le seul cas que j'ai, c'est un déporté un peu particulier. Ce que j'ai dit, c'est mon grand-cousin qui était dans un no-flag et qui, à force de tenter de s'évader, a été envoyé au camp de Rabarouchka. Mais le camp de Rabarouchka n'est pas compté comme camp de déportation. Et pourtant.
Est-ce que dans l'association, il y a des personnes qui ont de la famille qui a été déportée ou même juste des proches ?
Bien sûr, nous avons dans le bureau une adhérente dont la maman est passée par Ravensbrück. On a eu également des adhérents dont le père était, c'était Monsieur Meignier, qui était passé par Dora. Oui, bien sûr. Mais on a aussi notre secrétaire dont le papa est passé, le grand-père est passé par Mauthausen. Oui.
Pourriez-vous nous dire combien il y a de déportés ? Enfin, combien de nombre de Charentais déportés avez-vous recueilli ?
Est-ce qu'on compte les déportés juifs ou pas ? Globalement, on va dire autour de 2000, juifs compris, hein. En sachant que le plus gros convoi reste le convoi des 927, le convoi du 20 août 1940, premier convoi de civils partis de France, des Espagnols. C'est la particularité de la Charente.
Est-ce que vous savez combien de déportés sont revenus ?
Combien exactement, je ne peux pas te dire. Hein. Mais globalement, le taux, c'est 30% de mortalité, 70% de retour, globalement. Sauf pour un convoi, et c'est le convoi qu'on appelle le convoi des 31 000, qui emmène 230 femmes non-juives le 24 janvier 1943 sur Auschwitz. C'est le seul convoi de femmes non-juives qui ira à Auschwitz, et là, on est dans les proportions inverses, c'est-à-dire 70% de décès, 30% de retour. Elles sont 230, il y en a 47 qui rentrent.
Parlant de déportés, oui. Je sais qu'il y a des enfants, des familles, des vieillards qui ont été déportés. Est-ce qu'il y avait une cible ?
Bien sûr, c'était les terroristes, c'est-à-dire les résistants. Hein ? Ils pourchassaient les résistants. On a quand même une grande majorité de gens ayant appartenu de près ou de loin à la résistance qui sont déportés. Après, le reste des déportés sont soit des dénonciations, un peu règlement de compte, soit c'était des droits communs. Des gens qui étaient en prison parce qu'ils avaient fait un vol, voilà. Bon. Mais essentiellement, oui, ce sont des résistants, mis à part les juifs. Hein. Là, il faut bien distinguer les deux déportations. On parle de déportation de répression pour tout ce qui est effectivement résistance, c'est-à-dire qu'ils étaient déportés parce qu'ils avaient fait quelque chose, et la déportation de répression, de persécution, où les gens sont déportés pour ce qu'ils sont. Donc ce n'est pas du tout pareil. Dans le premier cas, et Jean Laforie le dit très bien, j'avais joué, j'avais perdu, je savais pourquoi j'étais là. Tandis qu'un pauvre type qui naît juif, il n'en a pas fait exprès de naître juif. Hein, eh bien, lui, il se retrouve déporté parce que c'est complètement inadmissible. Les tziganes, les homosexuels, les handicapés.
En Charente, est-ce qu'il y a des résistants qui vivent toujours ? Si oui, quelle est la relation que vous entretenez avec cette personne-là ?
Alors, il en reste très peu de résistants. Bon, moi, je connais Madame Gros. Qui a été résistante et déportée. On avait encore dans notre association jusqu'à il y a 15 jours Monsieur Villard, mais il est décédé. Alors tant qu'ils ont pu, on les a fait témoigner, bien sûr, on leur a demandé de témoigner devant les élèves. Hein. Alors comme on en a peu, nous, en Charente, enfin, il nous restait que Monsieur Villard, on n'hésite pas à faire venir des gens de l'extérieur. Ainsi, on a fait venir Ginette Colinca. On fait venir encore Lily Léniel, parce que c'est une petite jeune, Lily Léniel. Elle n'a que 96 ans, donc elle a été déportée à 11 ans. Donc voilà. Et Jean Laforie, dont je te parlais, mais Jean Laforie, je l'ai rencontré encore la semaine dernière à l'Arc de Triomphe. Il va avoir 102 ans. Je n'ose plus le faire déplacer.
Eh bien, je vous remercie du coup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions.
Ben, merci à vous de m'avoir reçue.